Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dienaba Diop, conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux, porte-parole du Parti Socialiste et d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Dienaba Diop, on vit des heures graves actuellement en Europe. Que vous inspire la guerre en Ukraine? Est-ce que vous approuvez les choix faits par le gouvernement d'Emmanuel Macron de sanctionner la Russie?
D'abord, je voudrais avoir une pensée pour le peuple ukrainien et puis aussi pour le peuple russe, parce que c'est très difficile pour les civils d'être en fait les victimes de la conséquence de décisions qui n'appartiennent qu'à des dirigeants, en l'occurrence Vladimir Poutine. Donc d'abord une pensée vraiment au peuple ukrainien, à toutes ces personnes qui sont obligées de fuir leur domicile, qui sont obligées de fuir leur pays, de le quitter, hein, parce que ils sont sous la menace réelle d'armes et de bombardements. Donc je voudrais d'abord penser au peuple ukrainien, aussi une pensée pour tous les dirigeants, pour le président Zelensky qui fait de son mieux pour répondre, et puis redire aussi notre appui au gouvernement français, parce qu'il est important dans ces temps si sombres qu'il y ait une unité comme celle que nous avons vue justement au Parlement européen lors du discours du président Zelensky. Il faut que nous soyons tous aux côtés de ce président, aux côtés du peuple ukrainien pour les aider justement à résister, parce que rien ne peut justifier la violation de la souveraineté d'un peuple.
Vous êtes agréablement surprise par les décisions de l'Union européenne qui ont été rapides et unanimes?
Oui, nous sommes agréablement surpris. Et puis, je crois que Poutine aura réussi au moins cela, c'est-à-dire d'arriver justement à unir l'Union européenne derrière le peuple ukrainien. Et je crois qu'il était important que l'Union européenne soit en capacité de répondre vite et fort à l'invasion de l'Ukraine, parce que on ne peut pas décemment laisser un peuple être justement malmené, être envahi par une autre puissance, parce que rien ne le justifie et c'est une violation du droit international.
La guerre en Ukraine est venue percuter la campagne électorale en France. Anne Hidalgo affirme que Jean-Luc Mélenchon est devenu l'allié et le soutien de Vladimir Poutine. Pour vous, le candidat de la France insoumise est disqualifié en raison de ses prises de position passées sur la Russie?
Je crois que ce ne sont pas seulement les prises de position passées sur la Russie, c'est aussi toutes les prises de position de ses différents porte-paroles et de lui-même au moment de début de cette crise ukrainienne, où il mettait justement sur le même plan des responsabilités supposées de l'OTAN et celles des décisions prises par Poutine. Donc je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on est un chef d'État, lorsqu'on prétend présider justement à la destinée d'une nation, on ne peut pas avoir un double discours concernant les violations du droit international ou des droits humains tels que on peut le voir en Russie. Ils ont par exemple aussi, ils se sont abstenus lorsque il était question de reconnaître le génocide des Ouïghours. Ils se sont abstenus lorsqu'il s'agit de voter une aide financière à l'Ukraine au Parlement européen. Donc je crois qu'avec tous ces éléments, soyons clairs, je crois que Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'étoffe d'un chef d'État.
Aujourd'hui, la campagne électorale est presque entre parenthèses en raison de la situation en Ukraine. Il faut tout de même parler des grands enjeux de l'élection présidentielle et ne pas laisser l'élection se dérouler sans débat contradictoire.
Évidemment, je crois que c'est un grand moment démocratique, c'est un moment dont les Français ont besoin, surtout au regard du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on ne doit pas se faire voler cette élection. Il faut poser sur la table les grands sujets qui sont celles de justice sociale, d'écologie sociale, les sujets aussi des inégalités qui se sont creusées durant tout ce quinquennat. Il faut aussi se poser la question économique. Justement, la crise avec la Russie pose la question aussi de la dépendance énergétique. Donc, il ne faut pas que les graves événements qui ont lieu et qui ont cours aujourd'hui et auxquels nous sommes pleinement associés, et je crois qu'il y a une véritable unité nationale justement sur ce sujet, ne doit pas justement empêcher la nécessaire discussion autour des programmes, autour des projets, parce qu'il s'agit quand même de la destinée de la France pour les 5 prochaines années.
Alors on va parler du programme d'Anne Hidalgo, Dienaba Diop, puisque vous êtes sa porte-parole dans le cadre de cette élection présidentielle. Que propose-t-elle en matière de protection sociale et de santé ?
En matière de protection sociale et de santé, nous, ce que nous voulons, c'est que les Français retrouvent justement cette protection sociale. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises à mal par le quinquennat d'Emmanuel Macron. On a vu le cas justement des retraites, cette réforme avortée mais qui sera reprise par le gouvernement. Il y a le problème de l'assurance chômage, il y a le problème, je l'ai dit, des inégalités qui se sont creusées, des APL qui ont été diminuées. Alors qu'à contrario, on a supprimé l'ISF. C'est la raison pour laquelle les riches n'ont jamais été aussi riches sur dans notre pays, et que il y a eu une grande précarisation. Alors nous, ce que nous disons, c'est que il va falloir justement pas attendre un ruissellement, mais il s'agit bien évidemment de redistribution, parce que c'est important. Donc d'abord, une hausse du SMIC de 15%, c'est-à-dire 200 euros net par mois pour les gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont juste au-dessus du seuil. Il faut savoir qu'aujourd'hui notre SMIC, c'est seulement 100 euros de plus que le seuil de pauvreté. Donc ça, on ne peut pas rester sur cette situation. C'est 5000 euros de dotation pour nos jeunes à 18 ans. Bien sûr, ce sera une dotation qui sera contrôlée par la CDC, c'est par la Cour des comptes, c'est-à-dire que on ne donne pas l'argent comme ça, mais il faut faire confiance à notre jeunesse et il faut investir dans notre jeunesse, parce que c'est avec eux que nous arriverons à changer les choses. Il y a aussi dans notre système de santé des choses qui ne vont pas. On l'a vu notamment dans la crise du Covid. Nous avons tenu parce que nous avons des soignants qui ont été les premiers de corvée, qui n'ont jamais abandonné, mais on sait qu'ils sont dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Alors, il faut aussi travailler sur notre système de santé, c'est-à-dire mieux recruter et puis revaloriser les salaires. Ça, c'est un des points forts du programme d'Anne Hidalgo, d'un point de vue économique et d'un point de vue de santé, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser les salaires pour que les gens qui travaillent puissent en vivre dignement. Il n'est pas normal que dans notre pays, aujourd'hui, on ne puisse pas vivre dignement de son salaire. Donc nous le ferons dans les branches de la santé, des services publics, de l'éducation. Parce que d'abord, le gouvernement, sa responsabilité, c'est de payer correctement les fonctionnaires de l'État.
Anne Hidalgo va-t-elle aider les travailleurs ubérisés qui ont perdu de nombreux droits sociaux ? De quelle manière la vie de ces personnes sera-t-elle améliorée si Anne Hidalgo est élue présidente ?
Nous avons fait de nombreuses propositions, d'abord au Parti Socialiste, reprises par la candidate Anne Hidalgo, c'est-à-dire qu'il faut un ensemble de droits, c'est-à-dire qu'il faut donner aux personnes qui sont justement exploitées, parce que c'est le terme, par ces plateformes, il faut leur donner des droits comme des salariés. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le droit du travail tel qu'il est appliqué aujourd'hui par les plateformes n'est pas conforme au droit du travail. Donc il faut leur redonner exactement les mêmes droits, une vraie protection sociale, parce que aujourd'hui ils sont exploités lorsqu'ils perdent justement des marchés, lorsqu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne sont pas indemnisés. Donc il faut reprendre cette législation et l'aligner sur le mieux-disant. Parce que le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que le quinquennat nous dit clairement, mais vous voyez, nous avons les chiffres du chômage, ils n'ont jamais été aussi bas. Mais ce que cachent ces chiffres du chômage, c'est que aujourd'hui, vous avez un grand recours aux CDD. Les CDI ont pour la plupart, lorsque vous avez des nouveaux contrats, disparu. Ce sont des CDD, ce sont des plateformes ubérisées, ce sont des gens qui sont obligés souvent de cumuler 2-3 petits boulots pour pouvoir vivre dignement. Eh bien, nous disons que ce n'est pas la société que nous voulons. Nous voulons que les gens puissent vivre dignement, qu'ils soient payés correctement. Et pour cela, il faut que la législation soit alignée sur le mieux-disant.
Dienaba Diop, un des sujets importants de cette élection présidentielle, c'est l'éducation. Je rappelle que vous êtes enseignante vous-même. Comment permettre la réussite des élèves issus de familles modestes ou de quartiers populaires ?
Permettre la réussite et d'avoir de nouveau une école émancipatrice, c'est d'abord veiller à ce que les enseignements dans les différents lycées ne soient pas mis en concurrence. C'est ce que fait par exemple le Parcoursup et c'est ce que fait aussi la réforme de Jean-Michel Blanquer du baccalauréat. Parce qu'en fait, vous avez une mise en concurrence des établissements. Avec la disparition par exemple des mathématiques, sur laquelle il est d'ailleurs revenu, comme dans le tronc commun qui est devenu une spécialité, vous privez un certain nombre de nos élèves, justement, de notre jeunesse, d'avoir la possibilité de pouvoir choisir sereinement son avenir. Et puis, comme vous l'avez dit, moi je suis enseignante depuis 24 ans en lycée professionnel. Quand on a 15 ans, on ne sait pas encore ce que l'on veut faire. Et demander, justement, à un jeune de se déterminer dès la seconde et de ne pas lui offrir ce tronc commun jusqu'à la terminale, c'est le priver d'un certain nombre de possibilités. Donc, nous aurons d'abord une abrogation de cette réforme du lycée qui a été justement dénoncée non seulement par les enseignants, mais par les parents et même par le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, ce qui est une première dans notre pays. Donc, il faut revoir ce programme. Il faut aussi faire supprimer Parcoursup. Parcoursup aujourd'hui, c'est la possibilité pour un élève qui a eu d'excellents résultats toute l'année de voir refuser ses vœux jusqu'au quatrième ou au cinquième. On n'a jamais eu autant de jeunes sans fac que depuis l'arrivée de Parcoursup. Donc ça aussi, il faut le dénoncer. Donc nous supprimerons Parcoursup. Il faut remettre dans les programmes plus de spécialités, mais effectivement, retrouver un tronc commun qui permette aux uns et aux autres d'avoir une formation initiale qui leur permettra de choisir sereinement sa spécialité ensuite et de choisir son parcours. Une dotation de 5000 euros. Aussi, un minimum jeunesse. On l'a vu pendant la crise. Nos jeunes entre 18 et 25 ans faire la queue pour aller à la soupe populaire. C'est indigne de notre pays. Donc, nous mettrons en place un minimum jeunesse, un RSA pour les jeunes, une ouverture pour les jeunes du RSA entre 18 et 25 ans. Parce que ce n'est pas possible que notre jeunesse soit une des plus pauvres, parce que j'en veux pour preuve les chiffres de l'OCDE. Le taux de pauvreté en France est un des plus élevés d'Europe. Ce n'est pas normal, parce que entre 18 et 25 ans, il y a une espèce de tunnel de précarité de notre jeunesse. Il faut résoudre cela. Et nous n'avons pas peur de dire qu'il faut investir et il faut donner à nos jeunes la possibilité d'être autonomes, parce qu'ils n'ont pas à dépendre des revenus de leurs parents. Et puis, même lorsque on doit avoir le choix de pouvoir s'émanciper dès 18 ans. On a le droit de vote, on a le droit de choisir son médecin dès 16 ans, et ben on doit avoir le droit d'être autonome et de choisir sa vie dès 18 ans. Et nous les accompagnons.
Mettre fin à Parcoursup, cela signifierait concrètement que les élèves de terminale pourraient véritablement choisir la filière qu'ils aiment et il y aurait moins de sélection à l'entrée à l'université ?
Tout à fait, parce que le Parcoursup, c'est une sélection qui ne dit pas son nom. Et donc, donner la possibilité aussi à l'université de pouvoir accueillir correctement, justement, tous nos jeunes. Il n'est pas normal que l'on ne puisse pas choisir correctement son parcours et justement sa filière à l'université. Moi, j'étais étudiante en 92 et on avait la possibilité de pouvoir choisir en fonction de ses résultats, effectivement, de ses appétences, la filière qui nous convenait. Ça fait partie de cela. Alors qu'Emmanuel Macron a voulu veut augmenter les droits d'inscription dans nos universités, alors qu'il a augmenter les droits d'inscription des étudiants étrangers. Je ne veux pas qu'on passe à un système à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on ait une université qui reste quelque chose qui soit réservé à une élite. Non, notre jeunesse doit pouvoir choisir tranquillement quelle est sa voie. Et de la même manière, il faut continuer justement de mettre en valeur la voie professionnelle, qui est une des grandes oubliées du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quand on vous dit un jeune, une solution, c'est faux, parce que c'est une mesure qui est extrêmement coûteuse et qui finalement touche très peu de gens. Ce qu'il faut, c'est que notre école, l'école de la République, reste émancipatrice. Et pour cela, il faut se donner les moyens. Il faut investir. Il faut mieux rémunérer les enseignants. Il faut mieux accompagner nos jeunes. Et il ne faut pas que, par exemple, les mesures de premier degré où on a divisé les CP, c'est-à-dire avoir des CP à demi-effectifs, comme c'est à effectif constant, ce sont des postes qui ont été supprimés dans le second degré, et notamment en lycée professionnel à cause des différentes réformes. On a moins d'heures de français, moins d'heures d'histoire-géographie, moins d'heures justement dans beaucoup de disciplines dites générales dans le professionnel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on estime que nos élèves qui sont dans la voie professionnelle valent moins que les étudiants en voie générale. Eh bien, nous disons non. Il faut rétablir un certain équilibre et c'est ce que nous ferons avec Anne Hidalgo comme présidente de la République.
Diène Abba-Diop, certains électeurs du PS continuent à regarder les sondages et à se dire qu'il vaut peut-être mieux voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Ils parlent de vote utile à cause des divisions à gauche. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui se disent à quoi bon voter pour Anne Hidalgo puisqu'elle a peu de chances d'atteindre le second tour ?
Eh bien, je leur dis que, premièrement, les sondages n'ont jamais fait une élection. Je peux vous dire que depuis les 30 dernières années, les sondages se sont toujours trompés. Rappelez-vous, François Hollande a commencé avec 3% dans les sondages. Et puis, je crois qu'il faut aussi rappeler ce qu'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est ni de gauche, ni de gauche. Toutes les mesures qu'il a mise en place pendant son quinquennat prouve qu'il n'est pas à gauche. Quand on fait la poche des plus pauvres en baissant les APL, quand on va ponctionner les retraités, quand on supprime l'ISF, on n'est pas de gauche. Quand on veut justement faire payer plus de droits d'inscription pour l'éducation de nos enfants, on n'est pas de gauche. Emmanuel Macron, c'est une imposture. Il n'est pas celui qui incarne la social-démocratie. Nous avons une seule candidate qui incarne la social-démocratie et cette candidate, c'est Anne Hidalgo. J'en veux pour preuve que les dirigeants européens, eux, ne s'y sont pas trompés. C'est-à-dire que ceux qui incarnent la social-démocratie, Pedro Sanchez, les Portugais au Portugal ou encore en Allemagne, ils discutent avec Anne Hidalgo. Si vous voulez une France plus juste, si vous voulez une France justement qui n'oublie pas ces classes populaires, qui n'oublie pas les plus précaires et qui produira plus de droits, qui protégera justement sa population, vous ne pouvez pas voter pour Emmanuel Macron. Son bilan est éloquent, il parle pour lui. Les inégalités se sont creusées. Même Éric Lombard, qui est justement le président de la Caisse des dépôts et des consignations, le dit, les salaires ne sont pas au niveau. On n'a jamais eu des salaires qui ne sont aussi peu suivis l'inflation. Ce que je veux dire à ces électeurs, c'est que si vous voulez une gauche du fer, une gauche responsable, celle qui agit au quotidien, à vos côtés, dans les départements, dans les régions, le 10 avril, il faut voter Anne Hidalgo. Elle est la seule alternative au quinquennat d'Emmanuel Macron.
Merci Diène Abba-Diop. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, adjointe au maire des Mureaux, porte-parole du Parti Socialiste et porte-parole d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.